Chapitre 13. Charleston, mercredi 24 décembre 1980. C'était le soir de Noël le plus solitaire que Nathalie Preston ait jamais connu, et elle décida de réagir. Elle prit son sac à main et son Nikon avec l'objectif portrait 135 mm, se mit au volant de sa voiture et alla se promener dans le vieux quartier de Charleston. Il était à peine 4 heures de l'après-midi, mais la nuit commençait déjà à tomber. Longeant les vieilles maisons et les boutiques de luxe, elle écouta des chants de Noël à l'autoradio et laissa son esprit vagabonder. Son père lui manquait. Elle l'avait vu de moins en moins fréquemment ces dernières années, mais l'idée qu'il ne soit plus là, qu'il ne soit plus nulle part, qu'il ne pense plus à elle, qu'il n'attende plus son retour, lui donnait l'impression que quelque chose s'était éteint en elle, que l'essence même de son être était menacée de disparition. Elle avait envie de pleurer. Elle n'avait pas pleuré en apprenant la nouvelle au téléphone, ni lorsque Fred l'avait conduite à l'aéroport de Saint-Louis. Il avait insisté pour l'accompagner, elle avait insisté pour qu'il n'en fasse rien, il s'était laissé convaincre. Elle n'avait pas pleuré pendant l'enterrement, ni durant les jours de confusion qui avaient suivi, entourée de ses parents et de ses amis. Mais une nuit, 5 jours après le meurtre de son père, 4 jours après son retour à Charleston, incapable de s'endormir, elle avait cherché un livre dans la maison et était tombée sur un ouvrage humoristique de Gene Shepherd. Celui-ci s'était ouvert sur une page dans la marge de laquelle son père avait écrit, de son écriture ronde et généreuse, « À raconter à Nat le jour de Noël ». Et elle avait lu l'histoire hilarante et terrifiante d'un petit garçon rendant visite au Père Noël dans un grand magasin. Alors que Nathalie avait 4 ans, ses parents l'avaient emmenée en ville dans le même but, et elle avait attendu patiemment durant 1 heure avant de s'enfuir à l'instant crucial. Arrivée à la fin du récit, Nathalie s'était mise à rire. Puis son rire s'était transformé en pleurs, ses pleurs en sanglots. Elle avait passé presque toute la nuit à pleurer, ne dormant qu'une heure ou deux avant l'aube, et quand elle s'était réveillée dans le petit matin d'hiver, elle s'était sentie épuisée, vidée, mais aussi rassérénée, un peu comme une personne atteinte de nausées après le premier spasme. Le pire était passé. Nathalie tourna à gauche et longea les façades en stuc des maisons de Rainbow Row, dont la lueur des réverbères affadissait à présent les couleurs, et s'interrogea. Elle avait commis une erreur en restant à Charleston. Pas 1 heure ne s'écoulait sans que Mrs. Culver vienne la voir, mais la conversation de la vieille veuve lui semblait pénible et forcée. Nathalie avait fini par comprendre que Mrs. Culver avait espéré devenir la seconde Mrs. Preston, et cette idée lui donnait envie d'aller s'enfermer dans sa chambre chaque fois qu'elle entendait la voisine frapper timidement à la porte. Frédéric l'appelait de Saint-Louis, tous les soirs, à 8 heures pile. Et Nathalie n'avait aucune peine à imaginer le visage sérieux de son ami et ex-amant quand il lui disait « Reviens, mon bébé. Tu te fais du mal en te terrant dans la maison de ton père. Tu me manques, bébé. Reviens près de ton Frédéric. » Mais son minuscule appartement de la cité universitaire lui paraissait désormais étranger. Quant à la chambre de Frédéric, ce débarras d'Alamo Street, ce n'était guère plus qu'un dortoir qu'il regagnait lorsqu'il était à bout de force, après avoir passé toute une journée au centre d'informatique à calculer la distribution des masses dans une nébuleuse stellaire. Frédéric était un garçon intelligent, mais dépourvu de manières, qui lui avait été présenté par des amis communs. Il était revenu du Vietnam avec un caractère irascible, une foi renouvelée en sa dignité et un esprit révolutionnaire qui lui avait permis de devenir un mathématicien et un chercheur de premier ordre. C'était quelqu'un que Nathalie avait bien connu, et, du moins l'année précédente, aimé, ou cru aimé. « Reviens à la maison, bébé !» lui répétait-il chaque soir, et Nathalie, esselée, souffrant encore des stigmates de son chagrin, lui répondait « Encore quelques jours, Frédéric, encore quelques jours. »« Quelques jours pour quoi faire » pensa-t-elle. Près de la batterie, Les fenêtres des vieilles grandes maisons illuminaient des superpositions de galeries, de palmiers, de belvédères et de balustrades. Elle avait toujours adoré cette partie de la ville. Son père l'y avait souvent emmenée en promenade quand elle était petite. Elle avait 12 ans lorsqu'elle s'était rendue compte qu'aucune famille noire n'habitait ici, que ses belles maisons et ses belles boutiques n'abritaient que des blancs. Des années plus tard, elle s'était étonnée qu'une fillette noire grandissant dans le sud des années 60 ait attendu si longtemps pour avoir une telle révélation. Il y avait tant de choses qui lui paraissaient naturelles, tant de préjugés contre lesquels il fallait lutter chaque jour, qu'elle n'en revenait pas de ne pas avoir remarqué que les rues où elle aimait à se promener le soir, les grandes maisons dont elle rêvait étant enfant, étaient aussi interdites aux membres de sa race que ses piscines, ses cinémas et ses églises, où elle n'aurait jamais imaginé pouvoir entrer. Quand Nathalie avait atteint l'âge de se promener toute seule dans les rues de Charleston, les pancartes infamantes avaient été enlevées, et les fontaines publiques étaient devenues publiques pour de bon. Mais les vieilles habitudes avaient la vie dure. Les barrières érigées par les traditions séculaires étaient encore debout, et il lui paraissait incroyable qu'elle puisse encore se souvenir de ce jour, une froide journée de novembre 1972, où elle était tombée en arrêt devant les grandes maisons et avait compris qu'aucun membre de sa famille n'avait jamais vécu ici, ne pourrait jamais y vivre. Mais cette dernière constatation avait été bannie de son esprit aussi vite qu'elle y était apparue. Nathalie avait hérité des yeux de sa mère et de la fierté de son père. Joseph Preston était le premier commerçant noir à posséder une boutique prospère dans ce quartier prestigieux. Elle était la fille de Joseph Preston. Nathalie s'engagea dans Dock Street, passant devant le théâtre rénové, dont le fenestrage en fer forgé suspendu à une corniche ressemblait à du lierre métallique. Cela faisait 10 jours qu'elle était à Charleston, et tout ce qui lui était arrivé auparavant semblait s'être déroulé dans une autre vie. Gentry devait avoir quitté son service à présent, souhaitant une bonne soirée et un joyeux Noël à ses adjoints, à ses secrétaires et aux autres blancs qui travaillaient dans l'immense bâtiment de l'hôtel du comté. Il n'allait pas tarder à téléphoner chez elle. Elle se gara près de l'église épiscopale de Saint Michael et pensa à Gentry, à Robert Joseph Gentry. Le vendredi précédent, après avoir accompagné Saul Lasky à l'aéroport, ils avaient passé presque toute la journée ensemble, ainsi que celle du samedi. Le premier jour, ils avaient surtout discuté de l'histoire de Lasky, de l'idée que des gens puissent utiliser mentalement leur prochain. « Si le professeur est dingue, ça ne fait sûrement de mal à personne », avait dit Gentry. « S'il n'est pas dingue, ça explique pas mal de crimes. » Nathalie avait raconté au shérif qu'elle avait aperçu le psychiatre lorsqu'il était sorti de la salle de bain pour aller se coucher dans son canapé-lit. Il était pieds nus et ne portait qu'un pantalon et un gilet de corps d'une coupe démodée. Depuis la porte de sa chambre, elle avait observé son pied droit. Son petit orteil avait disparu, ne laissant qu'une cicatrice blanche aussi visible qu'une veine sur sa peau pâle. « Ça ne prouve rien », lui avait rappelé Gentry. Le dimanche, ils avaient abordé d'autres sujets. Gentry l'avait invité à dîner chez lui. Nathalie était tombée amoureuse de sa maison, un vieil immeuble victorien situé à 10 minutes à peine du vieux quartier. Le voisinage était dans une phase transitoire. Certains des immeubles étaient laissés à l'abandon, d'autres étaient en voie de rénovation et retrouveraient bientôt leur beauté. Les voisins de Gentry étaient en majorité des jeunes couples, noirs et blancs, et il y avait des tricycles dans les allées, des cordes à sauter sur les minuscules pelouses et des rires dans les cours. 3 des pièces du rez-de-chaussée étaient pleines de livres. Dans le bureau, ils étaient rangés dans des bibliothèques superbes. Dans la salle à manger sur des étagères faites main disposées de part et d'autre de la baie vitrée, et dans la cuisine sur des étagères métalliques bon marché dissimulant un mur de briques. Pendant que Gentry préparait la salade, Nathalie avait exploré les lieux avec sa bénédiction, admirant les vieux volumes reliés plein cuir, étudiant les étagères remplies de livres cartonnés traitant d'histoire, de sociologie, de psychologie et d'une douzaine d'autres sujets, et souriant devant plusieurs rangées de livres de poche. Romans policiers, romans d'espionnage, romans de suspense. En entrant dans le bureau de Gentry, elle eut immédiatement envie de se blottir dans un coin avec un bouquin. Elle compara l'immense secrétaire croulant sous les papiers et les dossiers, le fauteuil et le canapé en vieux cuir, et les étagères bourrées de livres avec son studio spartiate de Saint-Louis. Le bureau du shérif Bobby Joe Gentry lui faisait l'effet d'un lieu convivial, d'un centre de vie, le même effet que lui avait toujours fait la chambre noire de son père. La salade était remuée, les lasagnes cuisaient, et Gentry et elle s'étaient assis dans le bureau pour savourer un verre de scotch pur malt et pour reprendre leur conversation sur la fiabilité de Saul Lasky et leur réaction à son récit. Toute cette histoire ressemble à un délire paranoïaque classique, avait déclaré Gentry. Mais si un juif européen avait prévu tous les détails de l'Holocauste 10 ans avant son déclenchement, n'importe quel bon psychiatre, même un psychiatre juif, n'aurait pas hésité à diagnostiquer un cas de paranoïa ou de schizophrénie. Ils avaient mangé sans se presser, tout en regardant l'obscurité monter derrière la baie vitrée. Gentry était descendu fouiller dans sa cave, rougissant presque lorsqu'elle lui avait demandé s'il y avait du vin dans la maison, puis était remonté avec 2 bouteilles d'un excellent cabernet sauvignon pour accompagner le dîner. Elle avait trouvé celui-ci excellent et avait complimenté son hôte pour ses réels talents de cuisinier. Il lui avait rétorqué que si les femmes sachant bien cuisiner étaient qualifiées de cordon bleu, les vieux célibataires sachant se débrouiller avec un fourneau étaient forcément des cuisiniers accomplis. Elle avait éclaté de rire et promis de chasser ce stéréotype de son esprit. Les stéréotypes. Seule, le soir de Noël, assise dans une voiture de plus en plus froide près de Saint Michael, Nathalie songea aux stéréotypes. Saul Lasky lui était apparu comme un exemple idéal de stéréotype. Celui du juif polonais de New York, avec sa barbe et ses yeux tristes qui semblaient la contempler depuis les profondeurs d'une nuit européenne qu'elle ne pouvait même pas concevoir, encore moins comprendre. Un professeur, un psychiatre, avec un doux accent étranger, qui aurait pu être celui du dialecte viennois parlé par Freud, tant les oreilles de Nathalie y étaient peu accoutumées. Et il portait des lunettes rafistolées avec du ruban adhésif. Rendez-vous compte. Tout comme sa tante Hélène, qui avait souffert de sénilité, aujourd'hui on appelait ça la maladie d'Alzheimer, pendant 11 ans, avant de s'éteindre alors que Nathalie avait à peu près cet âge. Par son aspect, ses paroles, ses actes, Saul Lasky était différent de la plupart des gens, blancs et noirs, que Nathalie avait connus durant son existence. Même si elle ne se faisait qu'une vague idée du stéréotype du juif, vêtements sombres, coutumes bizarres, physique typée, amour de l'argent et du pouvoir, cet argent et ce pouvoir qui étaient encore refusés à sa propre race, elle n'aurait dû avoir aucun problème à concilier l'étrangeté fondamentale de Saul Lasky avec ce stéréotype. Mais elle n'y arrivait pas. Nathalie n'était pas naïve au point de croire qu'elle était trop intelligente pour réduire les gens à des stéréotypes. Elle n'avait que 21 ans, mais elle avait vu des gens comme son père et comme Frédéric, des gens intelligents, se contenter d'inverser les stéréotypes qu'ils choisissaient d'appliquer aux autres. Son père, qui était pourtant un homme sensible et généreux, farouchement fier de sa race et de son héritage, avait considéré l'avènement de ce qu'on appelait le Nouveau Sud comme une expérience dangereuse, une manipulation exercée par les gauchistes, noirs et blancs, et destinée à changer un système qui avait suffisamment changé de lui-même pour permettre enfin aux hommes de couleur durs à la tâche comme lui de trouver un peu de réussite et de dignité. Frédéric considérait que les gens étaient des dupes du système, des maîtres du système, ou des victimes du système. Il avait une vision très claire du système. C'était la structure politique qui avait rendu inévitable la guerre du Vietnam, la structure dirigeante qui l'avait fait durer, et la structure sociale qui avait voulu faire de lui de la chair à canon. Frédéric avait eu une réaction en deux temps. Sortir du système pour se consacrer aux mathématiques pures, discipline inutile et anodine par excellence, et devenir si bon dans sa partie qu'il aurait le pouvoir d'échapper au système jusqu'à la fin de ses jours. En attendant, Frédéric ne vivait que pour les heures qu'il passait devant ses ordinateurs, évitait les complications inhérentes aux relations humaines, faisait l'amour à Nathalie avec autant d'ardeur et de compétence qu'il en mettait à affronter quiconque osant l'offenser, et lui apprenait à se servir du revolver qu'il gardait dans son appartement Capharnaüm. Nathalie frissonna et tourna la clé de contact pour remettre le chauffage en route. Elle passa devant Saint Michael, remarqua les fidèles qui venaient assister à une messe de minuit anticipée et se dirigea vers Broad Street. Elle pensa à la messe du matin de Noël dans l'église baptiste située à trois pâtés de maison de chez elle. Que de fois elle y avait assisté en compagnie de son père. Elle avait décidé de ne pas l'accompagner cette année, de renoncer à son hypocrisie. Elle savait que ce refus lui ferait de la peine, le mettrait en colère, mais elle s'était préparée à défendre son point de vue. Nathalie sentit le vide qui l'habitait croître jusqu'à devenir physiquement douloureux. Elle aurait tout donné pour s'incliner devant les arguments de son père et l'accompagner à l'église le lendemain matin. Sa mère avait péri dans un accident pendant l'été de ses 9 ans. Un accident bizarre et imprévisible, lui avait dit son père ce soir-là, à genoux devant elle, tenant ses 2 mains dans les siennes. Sa mère rentrait du travail et traversait un petit parc, à une centaine de mètres de la chaussée, lorsqu'une voiture décapotable occupée par 5 étudiants, tous ivres, s'était brusquement engagée sur la pelouse. Le conducteur avait réussi à éviter une fontaine, puis il avait perdu le contrôle de son véhicule et embouti une femme de 32 ans qui rentrait chez elle pour aller pique-niquer avec son mari et sa fille, et qui, selon les témoins, n'avait vu la voiture qu'à la dernière seconde, la regardant foncer sur elle d'un air non pas choqué ni horrifié, mais surpris. Le jour de la rentrée, l'institutrice de Nathalie avait demandé à ses élèves d'écrire une rédaction sur ce qu'ils avaient fait pendant leurs vacances. Nathalie avait considéré le papier réglé de bleu pendant une dizaine de minutes, puis elle avait pris son stylo à encre tout neuf, acheté la veille chez Keener, et avait écrit de sa plus belle écriture « Cet été, je suis allé à l'enterrement de ma mère. Ma mère était très douce et très gentille. Elle m'aimait beaucoup. Elle était trop jeune pour mourir cet été. Un monsieur qui n'aurait pas dû conduire sa voiture l'a écrasée et l'a tuée. Il n'est pas allé en prison et il n'a pas été puni. Après l'enterrement, mon père et moi, nous sommes allés chez ma tante Léa pendant 3 jours. Mais après, nous sommes revenus. Ma mère me manque beaucoup. » Sa rédaction finie, Nathalie avait demandé la permission d'aller aux toilettes. Elle avait couru le long des couloirs à la fois étranges et familiers, puis elle avait vomi à plusieurs reprises dans le 3e cabinet des toilettes des filles. Les stéréotypes. Nathalie s'engagea dans Broad Street et se dirigea vers la maison de Mélanie Fuller. Elle passait devant chaque jour, ressentant la même douleur et la même colère, sachant bien que c'était un instinct similaire qui vous poussait à asticoter une dent gâtée du bout de la langue. Chaque jour, elle regardait la maison, aussi sombre que sa voisine maintenant que Mrs. Hodges était partie, et pensait au jour où elle avait suivi le barbu qui y était entré. Saul Lasky. Il correspondait parfaitement à un stéréotype, mais ce n'en était pas un. Nathalie pensa à ses yeux tristes, à sa voix douce, et se demanda où il était. Que lui était-il arrivé? Ils étaient convenus de se contacter tous les 2 jours, mais ni Gentry ni elle n'avaient de nouvelles de Saul depuis qu'il l'avait quitté à l'aéroport vendredi dernier. Hier, mardi, Gentry avait appelé Saul à son domicile et à son bureau de l'université. Personne n'avait répondu chez lui, et la secrétaire du département de psychologie de Columbia lui avait dit que le docteur Lasky était en vacances jusqu'au 6 janvier. Non, le docteur Lasky n'avait pas contacté son bureau depuis le 16 décembre, jour de son départ pour Charleston, mais il serait sûrement de retour pour le 6 janvier. C'était ce jour-là qu'il reprenait ses cours. Le dimanche, alors que Gentry et elle conversaient chez le shérif, Nathalie lui avait montré une coupure de presse relative à une explosion survenue durant la nuit dans le bureau d'un sénateur à Washington, D.C. 4 personnes y avaient trouvé la mort. Est-ce que ça avait un rapport avec le mystérieux rendez-vous que Saul avait pris pour le même jour? Gentry avait souri et lui avait rappelé qu'un garde du bâtiment avait péri lors de ce même incident, que la police de Washington et le FBI avaient conclu à un acte terroriste isolé, qu'aucune des 4 victimes n'avait été identifiée comme étant Saul Lasky et qu'une partie des actes de violence insensés commis en ce bas monde n'avait aucun rapport avec le cauchemar décrit par Saul. Nathalie avait souri en signe d'assentiment et siroté son scotch. 3 jours plus tard, il n'y avait toujours aucune nouvelle de Saul. Le lundi matin, Gentry l'avait appelé depuis son bureau. « Aimeriez-vous participer à l'enquête sur les meurtres de Mansard House ?» avait-il demandé. « Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire ?»« Eh bien, nous sommes à la recherche d'une photographie de Miss Fuller. Selon la brigade criminelle et le bureau local du FBI, il n'existe aucune photo de cette dame. Ils n'ont pu trouver aucun parent. Les voisins affirmant qu'ils n'ont aucune photo d'elle et la perquisition domiciliaire n'a rien donné. L'avis de recherche qui vient d'être émis ne contient que sa description. Mais je pense qu'il nous serait utile d'avoir sa photo. Vous ne croyez pas? Comment puis-je vous aider? Retrouvez-moi devant la maison Fuller dans un quart d'heure. Vous n'aurez pas de peine à me reconnaître. J'aurai une rose à la boutonnière. Gentry arriva avec une rose glissée dans la poche de poitrine de son uniforme. Il l'offrit à Nathalie alors qu'il se dirigeait vers la cour placée sous scellé de la maison Fuller. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» demanda Nathalie en humant la fleur rose pâle. « C'est peut-être le seul paiement que vous recevrez pour ce travail pénible, fastidieux et probablement inutile. » Gentry sortit de sa poche un assortiment de clés, en choisit une lourde, à l'ancienne mode, et ouvrit le portail. « Est-ce qu'on va encore fouiller toute la maison ?» demanda Nathalie. L'idée d'y pénétrer une nouvelle fois lui répugnait. Elle se rappelait encore le soir où elle y avait suivi Saul, 5 jours plus tôt. Elle frissonna en dépit de la douceur relative de l'air. « Non, » fit Gentry. Et il la précéda jusqu'à l'autre vieille maison de briques qui donnait sur la cour. Il chercha une autre clé et ouvrit la lourde porte ouvragée. Après la mort de son mari et de sa petite fille, Ruth Hodges est allée vivre chez sa fille, dans le nouveau lotissement de Sherwood, à l'ouest de la ville. Elle m'a donné la permission de récupérer quelques trucs. La maison était sombre, vieux meubles et bois ciré. Mais Nathalie la trouva moins poussiéreuse et plus accueillante que la maison Fuller. Au premier étage, Gentry entra dans une petite pièce meublée d'un canapé et d'une table et au mur couvert de photos de chevaux de course. Il alluma une lampe de bureau. « Ceci était la tanière de George Hodges, » dit Gentry. Il prit un album de timbre, feuilleta lentement ses pages rigides et prit la loupe qui y était insérée. Ce pauvre diable n'avait jamais fait de mal à personne. Il a travaillé comme employé des postes pendant 30 ans et comme veilleur de nuit à la marina pendant 9 ans. Et puis, ce truc lui est tombé dessus. Gentry secoua la tête. Bref, à en croire Mrs. Hodges, George avait encore un appareil photo en 1977 et il s'en servait souvent. Elle est sûre que Miss Fuller ne s'est jamais laissée prendre en photo. Elle dit que la vieille dame refusait catégoriquement d'être photographiée. Mais George a pris pas mal de diapos Et Mrs. Hodges ne saurait jurer que Mélanie Fuller ne figure sur aucune d'entre elles.
« Vous voulez donc que je regarde ces diapos et que je la retrouve ?»
dit Nathalie.
« D'accord, mais je n'ai jamais vu Mélanie Fuller. »«
Je sais. Mais je vais vous donner une copie de la description qui figure sur l'avis de recherche. Vous n'aurez qu'à mettre de côté les photos où figurent des vieilles dames d'environ 70 ans. »
Gentry marqua un temps.
« Est-ce que vous ou votre père possédez une table lumineuse ou un appareil pour trier les diapos ?»«
Il y a une table lumineuse large de plus d'un mètre dans son studio. Mais pourquoi ne pas utiliser un simple projecteur ?»«
Ça risque d'aller plus vite avec une table lumineuse, » dit Gentry en ouvrant la porte du placard.
« Grand Dieu !»
s'exclama Nathalie.
Le placard était immense et rempli d'étagères. Sur celle de gauche étaient rangés des albums et des boîtes étiquetées « timbres », mais sur celle de droite, du sol au plafond, il y avait des boîtes contenant des albums de diapositives Kodak.
Nathalie se retourna vers Gentry.
« Il y a des milliers de diapos là-dedans. Peut-être même des dizaines de milliers. »
Gentry écarta les bras, paume tournée vers le ciel, et lui adressa le plus large et le plus juvénile des sourires.
« J'ai dit qu'il me fallait un volontaire pour ce boulot. Je le confierais bien à un de mes adjoints, mais Lester est le seul à avoir du temps libre et il n'est pas très futé. C'est un type sympa, mais il est à peu près aussi malin qu'une poutre. Et je crains qu'il ne puisse se concentrer sur une telle tâche.
» Voilà qui en dit long sur la police de Charleston. »
Gentry continua de lui sourire.
« Enfin, » soupira Nathalie. « Je n'ai rien de mieux à faire, et le studio est à ma disposition, tant que Lorne Jessop, l'avocat de mon père, n'aura pas vendu le fonds de commerce, voire tout l'immeuble, à la chaîne Shutterbug. »«
D'accord. Au boulot. »«
Je vais vous aider à transporter ces boîtes dans votre coffre. »«
Merci mille fois. »
Nathalie huma la rose et soupira.
Il y avait des milliers de diapositives. Et chacune d'elles était au mieux un instantané passable. Nathalie savait à quel point il était difficile de prendre une photo vraiment bonne. Elle avait passé plusieurs années à essayer de satisfaire son père, après qu'il lui avait offert son premier appareil pour son 9e anniversaire, un Yashica manuel bon marché.
Mais bon sang, n'importe qui ayant pris des milliers de photographies sur une durée de 20 ou 30 ans aurait dû réussir à produire au moins une ou deux diapos intéressantes.
Pas George Hodges. Il avait pris des photos de famille, des photos de vacances, des photos de famille en vacances, des photos de maisons et de bateaux, des photos de cérémonies, des photos de fêtes familiales.
Nathalie eut l'occasion d'examiner tous les arbres de Noël des Hodges entre 1948 et 1977, et des photos de tous les jours, mais chacune d'elles était au mieux un instantané médiocre. En 18 ans d'activité, George Hodges n'avait jamais appris à ne pas se placer face au soleil, à ne pas placer ses sujets face au soleil, à ne pas les placer devant des arbres, des poteaux ou d'autres objets qui semblaient sortir de leurs oreilles ou de leur coiffure démodée, à ne pas faire basculer l'horizon, à ne pas forcer ses sujets à se tenir comme des piquets, à ne pas photographier ces natures mortes à plusieurs kilomètres de distance, à ne pas compter sur son flash pour photographier des sujets trop proches ou trop éloignés de son objectif, et à ne pas chercher à inclure toute la personne dans ses portraits. Ce fut grâce à ce dernier défaut que Nathalie finit par découvrir Mélanie Fuller. Il était 7 heures passées. Gentry venait d'arriver au studio avec un repas qu'il était allé chercher dans un restaurant chinois, et qu'ils avaient mangé debout près de la table lumineuse. Et Nathalie lui avait montré le petit tas de diapos intéressantes.
« Je ne pense pas qu'il s'agisse de l'une de ces vieilles dames, » dit-elle. « Elles prennent toute la pose, et la plupart paraissent trop jeunes ou trop âgées. Heureusement que M. Hodges classait ses boîtes par année. »«
Ouais, » dit Gentry en posant les diapos sur la table lumineuse pour mieux les examiner.
Aucune ne correspond à notre description. Les cheveux ne collent pas.
À en croire, Mrs. Hodges,
Miss Fuller avait la même coiffure depuis les années 60, à tout le moins. Le genre cheveux courts bouclés et bleuis par le rinçage. Aussi enjoué que vous en ce moment.
Merci, dit Nathalie.
Mais elle sourit en reposant son assiette en carton et en défaisant l'élastique d'une nouvelle boîte de diapo. Elle commença à disposer celle-ci dans l'ordre.
« Le plus dur, c'est de ne pas jeter chaque paquet par terre quand j'ai fini de le trier.
Pensez-vous que Mrs. Hodges accepterait de les examiner ?»«
Probablement pas. Elle m'a dit que si George avait fini par renoncer à la photographie, c'était en partie parce qu'elle avait toujours refusé de regarder ses diapos. »«
Je me demande bien pourquoi. »
Nathalie étala sur la table la 300e série de photos de Lawrence, le fils, et Nadine, la belle-fille. La plupart des diapos étaient étiquetés. Debout dans la cour, clignant des yeux sous le soleil, tenant dans leurs bras la petite Laurel, qui clignait des yeux elle aussi, pendant que Kathleen, alors âgée de 3 ans, tirait sur la robe trop courte de sa mère et clignait des yeux. Lawrence portait des souliers noirs et des chaussettes blanches.
« Un instant, » dit Nathalie.
Gentry, réagissant immédiatement à l'émoi que trahissait sa voix, reposa les diapos qu'il tenait et se pencha vers elle.
« Qu'y a-t-il ? »
Nathalie désigna du doigt la 10e diapo de la série.
« Ici, vous voyez ? Ces deux-là. Ce grand type chauve, ça ne serait pas... Comment s'appelait-il déjà ?»
Monsieur Thorne, alias Oscar Félix Haupt.
Oui, oui, et cette dame mal fagotée avec ses boucles bleues.
Ah, mais oui. Bonjour, Miss Fuller. Il se pencha sur la diapo et l'étudia à la loupe.
Elle n'a pas remarqué qu'il photographiait tout le groupe, dit doucement Nathalie.
En effet, acquiesça Gentry, je me demande pourquoi.
À en juger par le nombre de diapos représentant cette petite famille, on peut raisonnablement estimer que M. Hodges les faisait poser dans sa cour environ 200 jours par an.
Miss Fuller pensait probablement qu'il s'agissait d'un groupe de statues.
« Ouais, » fit Gentry en souriant.
« Et est-ce que vous arriverez à en faire un tirage ? D'elle toute seule, je veux dire. »«
Sûrement, »
dit Nathalie en reprenant son sérieux.
Apparemment, il utilisait du Kodachrome 64, et ça supporte très bien l'agrandissement.
Faites d'abord refaire un négatif si vous voulez un tirage de bonne qualité.
Découpez ici, ici et ici, et vous aurez un excellent portrait de 3/4.
Formidable, dit Gentry. Vous avez fait un excellent boulot. Nous allons...
Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?
Nathalie leva les yeux vers lui et serra ses bras contre sa poitrine pour s'empêcher de frissonner. Elle n'y parvint pas.
« Elle ne fait pas ses 70 ans, » dit-elle.
Gentry examina de nouveau la diapositive. « Cette photo a été prise il y a... voyons, il y a environ 5 ans.
Mais non, vous avez raison.
Elle a l'air âgée de... d'une 60aine d'années. Quoique... d'après les archives municipales, elle était déjà propriétaire de cette maison durant les années 20.
Mais ce n'est pas ça qui vous trouble, n'est-ce pas ?
Non.
J'ai vu tellement de photos de la petite Kathleen, je n'arrête pas d'oublier qu'elle est morte. Et que son grand-père, celui qui a pris toutes ces photos, est mort lui aussi.
Gentry hocha la tête. Il regarda Nathalie, de nouveau penchée sur la diapositive. Sa main gauche s'éleva, se dirigea vers l'épaule de la jeune femme, puis retomba. Nathalie n'avait rien remarqué. Elle examina la diapositive de plus près.
« Et ceci est le monstre qui les a sans doute tués, » reprit-elle, « cette vieille dame inoffensive. Aussi inoffensive qu'une grosse veuve noire qui tue toute créature osant pénétrer dans sa tanière. Et quand elle en sort, c'est pour tuer d'autres créatures. Y compris mon père. »
Nathalie éteignit la table lumineuse et tendit la diapositive à Gentry.
« Tenez, je regarderai les autres diapos demain au cas où je trouverai autre chose.
En attendant, faites tirer ceci et ajoutez-le à vos mandats d'arrêt, à vos bulletins de recherche ou je ne sais quoi. »
Gentry avait acquiescé et accepté la diapositive avec répugnance, la tenant à bout de bras comme s'il s'était agi d'une araignée, encore vivante et encore meurtrière. Nathalie s'arrêta en face de la maison Fuller, jeta un coup d'œil au bâtiment pour se conformer à son rituel quotidien, passa en première pour partir en quête d'un téléphone et contacter Gentry au sujet de leur dîner de ce soir, et se figea soudain. Elle serra le frein à main et coupa le moteur. Elle attrapa son icône d'une main tremblante et examina la maison au téléobjectif, calant celui-ci sur la vitre partiellement ouverte de la portière avant gauche. Il y avait de la lumière dans la maison Fuller, au premier étage. Pas dans une des pièces donnant sur la rue, mais assez près de la façade pour éclairer le couloir et être visible à travers les volets. Nathalie était passée devant la maison chaque soir durant les 3 derniers jours. Elle n'y avait jamais vu de lumière. Elle abaissa son appareil photo et inspira profondément. Son cœur battait la chamade. Il y avait forcément une explication rationnelle. La vieille femme n'était sûrement pas revenue s'installer chez elle, alors que la police et le FBI la recherchaient dans une 12aine d'États. Pourquoi pas ? Non, pensa Nathalie, il y a une autre explication. Peut-être que Gentry ou un autre enquêteur est passé ici aujourd'hui. Peut-être la brigade criminelle. Gentry lui avait dit qu'ils envisageaient de stocker les possessions de la vieille dame jusqu'à la fin de l'enquête. Il pouvait y avoir 100 d'explications rationnelles. La lumière s'éteignit. Nathalie sursauta comme si une main venait de se poser sur sa nuque. Elle reprit son appareil photo, le leva. La fenêtre du premier étage emplit le viseur. Aucune lumière n'était visible derrière les volets. Nathalie reposa soigneusement l'appareil sur le siège avant droit, se redressa, respira à fond pour se calmer, puis sortit son sac à main de la boîte à gants et le posa sur ses cuisses. Sans quitter des yeux la façade obscure de la maison, elle fouilla dans son sac et sortit le Lama automatique 32 et reposa son sac. Elle resta immobile, laissant le canon de l'arme reposer sur le volant. La pression de ses doigts sur la crosse avait automatiquement libéré le premier cran de sûreté. Le second était toujours en place, mais il lui faudrait moins d'une seconde pour le relâcher. Mardi soir, Gentry l'avait emmené dans un stand de tir privé et lui avait montré comment charger, manipuler et faire tirer le pistolet. Il était chargé à présent. 7 balles blotties dans sa crosse comme des œufs dans un nid. L'indicateur de charge affichait une couleur rouge sang. Les pensées de Nathalie étaient aussi agitées que des rats de laboratoire cherchant frénétiquement la sortie d'un labyrinthe. Que devait-elle faire ? Devait-elle faire quelque chose ? Il y avait déjà eu des rôdeurs par ici. Saul lui était apparu comme un rôdeur. Où diable était Saul ? Était-il revenu ici ? Nathalie élimina cette hypothèse absurde avant même d'avoir achevé de la formuler. Qui était-ce alors ? Nathalie revit en esprit la diapo de Miss Fuller et de son monsieur Thorne. Non, Thorne est mort. Miss Fuller est sans doute morte elle aussi. Alors qui est-ce ? Nathalie serra plus fort la crosse de son arme, veillant à ne pas appuyer sur la détente et observa la maison. Son souffle était rapide mais régulier. Fiche le camp. Appelle Gentry. Où ça ? Chez lui ou à son bureau ? Les deux. Demande à parler à un adjoint si nécessaire. 7 heures, un soir de Noël. À quelle vitesse réagirait le bureau du shérif ou celui de la police ? Et où était le téléphone le plus proche ? Nathalie essaya de visualiser une cabine, mais ne revit que les magasins et les restaurants obscurs devant lesquels elle était passée. « Alors, va donc à l'hôtel du comté ou chez Gentry. Ce n'est qu'à 10 minutes de route. » « La personne qui s'est introduite dans la maison aura disparu dans 10 minutes. » Une chose en tout cas était sûre,
Nathalie n'entrerait pas dans cette maison toute seule. Elle avait agi de façon stupide l'autre jour, mais elle avait été poussée par la colère, le chagrin et la témérité que confère l'ignorance. Récidiver cette nuit serait criminellement stupide, pistolet ou pas. Quand Nathalie était petite, elle adorait se coucher tard le vendredi ou le samedi soir pour regarder des films d'épouvante à la télé. Son père lui donnait la permission de préparer le canapé-lit pour qu'elle puisse s'endormir tout de suite dès la fin du film, le plus souvent avant la fin d'ailleurs. Parfois, il se joignait à elle, lui vêtu de son pyjama rayé bleu et blanc, elle de son pyjama en flanelle, et ils s'installaient avec leur pop-corn et commentaient les scénarios et les déferlements de sang également improbables. Ils étaient en accord parfait sur un point. Ne jamais avoir pitié de l'héroïne qui agissait de façon stupide. La jeune femme, vêtue d'une chemise de nuit en dentelle, recevait à plusieurs reprises le même avertissement. « N'ouvrez pas la porte fermée au fond du couloir sombre. » Et que faisait-elle une fois que tout le monde était parti? Dès que leur héroïne du vendredi soir ouvrait la porte, Nathalie et son père se mettaient à encourager le monstre qui la guettait. Le père de Nathalie avait un dicton qui collait parfaitement à ce genre de situation. La stupidité a un prix et il faut toujours le payer. Nathalie ouvrit la portière et descendit de voiture. Le poids du pistolet automatique dans sa main droite lui paraissait étrange. Elle resta immobile une seconde, observant les maisons obscures et la cour qui les desservait. À 10 mètres de là, un réverbère éclairait la brique et l'ombre des arbres. « Je vais jusqu'au portail, c'est tout !» se dit Nathalie. Si quelqu'un sortait de la maison, elle pourrait toujours s'enfuir. De toute façon, le portail était fermé. Elle traversa la rue silencieuse et s'approcha du portail. Il était légèrement entrouvert. Elle en toucha le métal froid de la main gauche et regarda les fenêtres obscures de la maison. Son cœur, saturé d'adrénaline, battait contre ses côtes, mais elle se sentait forte, vive, légère. C'était un vrai pistolet qu'elle tenait dans sa main. Elle libéra le cran de sûreté comme Gentry le lui avait appris. Elle ne tirerait que si on l'attaquait, de n'importe quelle façon, mais elle tirerait. Elle savait qu'il était temps de reprendre le volant et d'aller chercher Gentry. Elle poussa le portail et entra dans la cour. La grande fontaine projetait une ombre qui l'abrita pendant une longue minute. Immobile, Nathalie observa la porte et les fenêtres de la maison Fuller. Elle avait l'impression d'être une gamine de 10 ans, mise au défi d'aller frapper à la porte de la maison hantée du quartier. « J'ai vu de la lumière. Si quelqu'un était venu ici, il était peut-être entré par derrière, suivant l'exemple de Saul et le sien. » Il n'allait pas ressortir par la porte de devant, bien visible depuis le trottoir. De toute façon, elle en avait assez fait. Le moment était venu de reprendre le volant et de ficher le camp d'ici. Nathalie s'avança lentement jusqu'au petit perron, levant légèrement son arme. Elle aperçut alors un détail que l'ombre du porche lui avait dissimulé. La porte d'entrée était ouverte. Nathalie haletait, au bord de la suffocation, mais l'air ne semblait pas pouvoir parvenir à ses poumons. Elle respira 3 fois à fond et retint son souffle. Les battements de son cœur se calmèrent. Elle tendit la main droite et poussa doucement la porte du canon de son arme. La porte s'ouvrit sans le moindre bruit, comme si ses charnières avaient été parfaitement huilées, lui révélant les boiseries de l'entrée et les premières marches de l'escalier. Nathalie crut voir les taches de sang laissées par les cadavres de Kathleen Hodges et de Barrett Kramer. Si quelqu'un descendait l'escalier, elle apercevrait d'abord 2 pieds, puis 2 jambes plongées dans l'ombre. « Et puis merde !» pensa Nathalie. Elle fit 2 demi-tours et se mit à courir. Le talon de son soulier se coinça entre 2 pavés et elle faillit tomber avant de regagner le trottoir. Elle retrouva l'équilibre, jeta un regard paniqué derrière elle, vers la porte ouverte, la fontaine sombre, les ombres sur les briques, le verre et la pierre,
puis se retrouva devant le portail, de l'autre côté de la rue, cherchant à tâtons le loquet de sa portière, l'ouvrant et regagnant l'abri de sa voiture. Elle verrouilla la portière, eut la présence d'esprit de remettre le cran de sûreté du pistolet avant de le poser à côté d'elle, et tendit la main vers la clé de contact, priant pour qu'elle l'ait laissée dans le démarreur. Oui. Le moteur se mit aussitôt en marche. Nathalie allait desserrer le frein à main, lorsque deux bras surgirent du siège arrière, une main se plaquant sur sa bouche, tandis que l'autre se refermait brutalement sur sa gorge. Elle hurla, hurla, mais la main plaquée sur sa bouche étouffa son cri et lui fit ravaler son souffle. Elle avait les deux mains libres et griffa un épais manteau, des gants lourds pressés contre son visage. Elle se hissa sur son siège, tentant désespérément de se dégager, d'atteindre son agresseur de ses griffes. Le pistolet. Nathalie tendit la main droite vers le siège voisin sans parvenir à l'atteindre. Elle heurta le frein à main, puis tenta de nouveau de griffer son agresseur. Son corps était rigide, à moitié dressé, ses genoux touchaient le volant. Un visage lourd et moite était pressé contre son cou et sa joue droite. Les doigts de sa main gauche accrochèrent ce qui ressemblait à une casquette. La main, plaquée sur sa bouche, descendit jusqu'à sa gorge. Le bras droit de son agresseur jaillit entre les sièges, et Nathalie entendit le pistolet tomber sur le tapis de sol. Elle tenta de saisir le gant lorsque la main revint lui en serrer la gorge. Elle essaya de labourer le visage pressé contre son cou, mais son agresseur repoussa sans peine ses assauts. Sa bouche était dégagée à présent, mais il ne lui restait plus de souffle pour crier. Des points lumineux dansaient au coin de ses yeux, et le sang rugissait à ses oreilles. « Voilà l'effet que ça fait d'être étranglée », pensa-t-elle, déchirant le tissu, expédiant des ruades dans le tableau de bord et essayant de lever les genoux jusqu'au klaxon. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçut des yeux rouges sang près de son cou, une joue écarlate, puis se rendit compte que même sa propre peau était rouge, que la lumière était rouge, que ses yeux s'emplissaient de points rouges. Une peau mal rasée lui râpa la joue, un souffle chaud lui caressa le visage, et une voix pâteuse lui murmura à l'oreille « Vous voulez retrouver la vieille? Allez voir à Germantown !» Nathalie s'arc-bouta et rejeta la tête en arrière le plus violemment possible, sentant avec joie son crâne heurter la chair et l'os. La pression se relâcha pendant une fraction de seconde. Nathalie s'effondra en avant, obligea sa gorge et ses poumons meurtris à inhaler une bouffée d'air, puis une autre, et se pencha sur la droite, tomba à terre, touchant le frein à main, puis le siège, en quête du pistolet automatique. Les doigts se refermèrent sur sa gorge, avec plus de force cette fois-ci, cherchant un point plus vulnérable que les autres. On la tira de nouveau vers le haut. Une explosion de points rouges, une violente douleur dans son cou, puis plus rien.